17h30 en temps universel, 19h30 à Paris.
Le débat du jour. Diane Berger.
Elle a mis fin à une sorte de malédiction dans le tennis français féminin. Louise Boisson, sur la terre battue de Roland-Garros, soutenue par une foule galvanisée, aidée aussi par son mental d'acier, s'impose jusqu'en demi-finale. Elle, qui était jusque-là une inconnue du grand public. Quelques semaines plus tard à Wimbledon, autre public, autre surface, autre pression aussi. Elle a un nom à défendre désormais. Elle est éliminée, cette fois-ci, dès les premières phases de qualification. Et l'on peut s'interroger, dans son cas, comme dans celui de très nombreux athlètes, à quel point le mental a joué. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, de nombreux sportifs ont d'ailleurs mobilisé, en plus de leurs entraîneurs classiques, des représentants d'un nouveau métier, des préparateurs dédiés aux questions psychologiques. Coach mental, atout indispensable pour devenir un grand champion, c'est la question qui va nous occuper dans la demi-heure qui vient avec nos trois invités. Bonsoir Ayodele Kwesan.
Bonsoir.
Vous êtes vice-championne d'Europe du relais 4x100 mètres. Vous avez participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux de Londres en 2012. On va pouvoir y revenir avec nous aussi. Yann Ancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, préparateur mental pour des sportifs de haut niveau, justement. Et puis avec nous également le sociologue du sport, Séguir Lasserie, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, ensemble nous allons donc aborder cette question. Qu'est-ce que le coaching mental? À quoi sert-il? Quel changement et quel encadrement? J'ai envie de commencer avec vous, Ayodele Kwesan. Quand vous avez commencé votre carrière, on était dans les années 2000. À quoi ça ressemblait? Est-ce que c'était un sujet, la santé mentale des sportifs?
Eh bien, dans les années 2000, ça ne me rajeunit pas, mais on n'en parlait pas du tout.
Sachant que vous courez encore, hein, je précise pour les auditeurs. Vous êtes...
Non, on ne parlait pas du tout de santé mentale. Justement, c'était quelque chose d'assez nébuleux. On était plutôt dans cette logique de les sportifs de haut niveau sont un peu des super-héros qui peuvent performer sans aide particulière. Et en fait, au fur et à mesure des années, les choses ont commencé à évoluer. Je dirais pas que c'est quelque chose de courant aujourd'hui. Ça dépend beaucoup des sports et notamment aussi de l'engagement de certaines fédérations sur le sujet. Mais en tout cas, moi, dans le sport qui est l'athlétisme, c'est beaucoup des initiatives individuelles où des athlètes ont un peu découvert, un peu par le bouche à oreille aussi, l'accompagnement psychologique. Et puis, on se partage aussi des références au fur et à mesure pour être mieux accompagné, pour mieux se connaître et pour mieux performer.
Mais donc, ouais, si on revient il y a 15-20 ans, un sportif, on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse dire, mais en fait, là, j'ai besoin peut-être d'aller voir un psy ou d'aller voir quelqu'un en plus de mon coach, parce que là, la pression, c'est trop dur. Ou autre chose. Enfin, non, j'ai plein de problèmes.
Non, mais... on commençait à parler un peu de quelques outils comme la visualisation, quelques outils pour mieux gérer le stress, mais on ne parlait pas vraiment du volet de l'accompagnement mental. Et je pense que le fait de voir qu'aux États-Unis, c'était quelque chose, par exemple, de très courant, ça a permis aussi de mieux faire émerger ce sujet auprès des entraîneurs, parce qu'ils ne sont pas nécessairement aussi outillés pour nous accompagner sur ces sujets-là. Et donc, c'est une pratique qui a vraiment évolué avec le temps. Et c'est vrai que plus jeune, ce n'était pas du tout un sujet que je connaissais.
Et est-ce que c'était quelque chose qui vous avait manqué, justement, en début de carrière?
Je pense qu'à un moment donné, oui, ça a été un manque. Moi, en fait, j'ai découvert un peu tout le volet de l'accompagnement mental suite à on va dire, à un burn-out, à des blessures, une non-sélection pour les JO de Rio. Et avec cette volonté aussi de vouloir être accompagné, de se dire il y a peut-être quelque chose à faire sur lequel j'ai pas de prise, sur lequel j'aurais besoin d'un œil extérieur. Et donc, de prendre ça, moi, ça m'a permis en tout cas de prendre beaucoup plus de recul à la fois sur ma vie que je pouvais mener avec mes X casquettes, l'emploi que je pouvais avoir en parallèle, et puis les difficultés financières aussi que je pouvais avoir. Et puis, de pouvoir prendre, on va dire, de préparer aussi les choses, notamment sur la saison 2024, de prendre du temps pour organiser les choses en fonction de mes besoins, à la fois les besoins physiques, mais aussi mes besoins psychologiques.
Mmh. Et Yann Ancelin, vous qui avez à la base été entraîneur sportif et qui est maintenant justement préparateur mental, à quel moment vous avez dit là, il faut faire quelque chose, on ne peut pas traiter les athlètes juste comme des corps, comme des machines conçues pour par exemple courir vite ou mettre la balle au bon endroit? Il y a aussi un travail dans la tête.
Ben moi, j'ai découvert le coaching mental par le volley, puisque j'étais entraîneur de volley avec une équipe féminine. Et je me rendais compte que dans mes formations STAPS, puisque je suis aussi enseignant en EPS, j'avais des limites dans ce domaine-là. J'ai fait mes études de STAPS dans les années 2000.
Je précise pour les auditeurs qui ne connaisseraient pas le sigle STAPS, c'est des études de sport, en France.
Pour être professeur enseignant de PS ou dans le monde du sport. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'avais des limites. Et en fait, je me suis passionné grâce à un ami qui lui-même avait fait une formation universitaire à Lille. Et le sujet m'a passionné parce que je me sentais vraiment limité. Je sentais que j'avais dans la performance et dans la recherche de performance une vraie limite par rapport à ça. Et à partir du moment où je me suis intéressé, j'ai voulu en faire mon deuxième métier parce que c'est un métier effectivement passionnant. Et comme tu le disais tout à l'heure, mais en fait, on ne peut pas uniquement se concentrer sur des sportifs. C'est-à-dire que l'aspect humain est fondamental, et notamment dans toutes les sphères de vie qui composent la personnalité d'un sportif. C'est très important de prendre tout en considération, parce qu'un sportif est d'abord un être humain, et il est important de pouvoir l'aider à s'accomplir dans sa vie en général pour être bon sur le terrain.
Et vous avez parlé de limites, justement. Comment ça se matérialisait concrètement? C'était des résultats qui n'arrivaient pas à être obtenus malgré les entraînements qui étaient sur le papier parfait?
En fait, le principe, c'est effectivement, on a tendance à projeter naturellement, finalement, notre façon dont nous, on conçoit le sport et dont nous, on voit les choses. Et on ne comprend pas que parfois, certaines personnes, mais finalement, n'intègrent pas ce qu'on essaye de leur faire comprendre. On a beau leur parler de leur manière de gérer le stress, comment nous, on fait. En fait, on se rend compte que quand on est formé, qu'en fait, le but, c'est de partir véritablement de la personne et d'essayer de ne pas essayer de mettre des formules un peu toutes faites sur les gens et d'essayer de vraiment d'apprendre à les écouter, leur donner des outils pour aussi se comprendre et se connaître en tant que personne, qui est la première phase de toute façon de la préparation mentale, c'est la conscience de soi et l'acceptation de soi. Mmh. Et ça part beaucoup d'écoute plutôt que ce rapport descendant où on va dire aux autres qu'ils font faire.
Et vous venez, vous, du monde du sport. On a aussi des préparateurs mentaux qui viennent plutôt du monde de la psychologie. Oui. C'est quoi, je vais poser une question vraiment naïve, mais je pense que des auditeurs se la posent. C'est quoi la différence entre un bon préparateur mental et un bon psy?
Alors, déjà, être bon, c'est bien, dans les deux cas. Mais je pense que un bon préparateur mental, le lien qu'il va y avoir entre un bon préparateur mental et un bon psy, ça va être quelqu'un qui va faire preuve d'empathie, déjà, et qui va pas être dans le jugement, et qui va essayer d'accepter la personne telle qu'elle est, sans vouloir la transformer et lui laisser le temps de transformer à son rythme. Et je pense que les psychologues peuvent traiter des pathologies, ce que nous, les préparateurs mentaux, on est plus centré sur la performance, mais comme on parle de performance, on parle aussi d'identité, donc il y a de toute façon des ponts entre les deux, et à partir du moment où on est vraiment à l'écoute et que on fait preuve de cette empathie et de cette volonté d'aider la personne, je pense qu'on peut être considéré comme un bon préparateur mental ou un bon psychologue du sport.
Et c'est Seguir Lasserie, vous qui êtes sociologue du sport, qui observez les évolutions du monde du sport, est-ce que c'est un tabou qui n'est levé que récemment? Quelle était l'évolution de ces questions, la prise en charge de ces questions de santé mentale dans le milieu des athlètes?
Ah oui, ça a été très particulier parce que effectivement, ça a émergé en fait dans les années 2000 avec un dispositif déjà qui a été mis en place dans le cadre des sports professionnels en premier lieu, notamment le football, le rugby et le basket, avec une loi qui obligeait notamment les ados athlètes à être suivis psychologiquement. Cette loi date de 2006, donc c'était un cadre de référence pour éviter justement par l'appât du gain, par la structuration de ce qu'est le sport professionnel de haut niveau, qu'il y ait des vulnérabilités qui émergent dans ces espaces-là. Le pan qu'on dirait plutôt olympique amateur a été plus ou moins mis de côté parce qu'on estime que, et souvent c'était la vision globale qu'avaient les institutions, c'était de se dire qu'ils arrivaient un peu plus tard dans la carrière, qu'ils arrivaient dans un univers qui était déjà encadré, et puis surtout, ces sports-là sont soumis au régime de la vocation. Donc l'idée que finalement, ces personnes ont déjà des dispositions à aller affronter ce monde-là. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin de venir en aide. Moi, je me souviens que, notamment, moi, quand j'avais, à la fin des années 2000, j'étais étudiant encore, et je me souviens m'être entretenu longuement avec une des psychologues de l'INSEP, qui est toujours aujourd'hui, qui était une des pionnières, notamment, à aller accompagner les athlètes, notamment lors des Jeux de 2016, qui s'appelle Myriam Selmi. Et qui m'expliquait que c'était une bataille pour elle déjà d'aller parler aux joueurs, parce que la structuration du sport de haut niveau fait que pour accéder à l'athlète en lui-même, il faut passer par tout un tas d'épreuves, notamment autour de tous ceux qui accompagnent le champion, à savoir l'entraîneur en premier lieu, et que une fois passé ce cap, il faut que aussi il y ait une forme de disposition à être et à pouvoir produire du discours sur potentiellement sa performance. Mmh. Et quand vous êtes à l'INSEP, on parle beaucoup de l'INSEP parce que c'est le cas le plus révélateur, mais quand vous êtes dans des dispositifs de sportifs de sport de haut niveau et que en fait finalement le temps est très très court, que l'espace de production de la performance est réduit aussi à l'espace où vous vivez, du coup c'est très difficile déjà d'une part un peu de déceler pleinement ce qui est de l'ordre du sportif et ce qui est de l'ordre de votre condition, et puis deuxièmement ça peut mettre en péril aussi, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde ultra optimisé dans lequel finalement le moindre problème doit totalement être évincé et dans lequel finalement on essaie de rien dire dessus pour pouvoir continuer et surtout rentrer dans ce régime de la vocation.
Ouais. Oui, et puis à Udélé Ikouessan, vous parliez du fait qu'on voyait les sportifs, on les voit d'ailleurs encore aujourd'hui comme des héros, c'est pour ça qu'on les admire, qu'on vibre avec eux, mais c'est vrai que derrière on peut imaginer qu'il y a aussi une peur des sportifs de dire mais là j'ai une faiblesse, là j'ai peur, là je vois bien que je m'auto-sabote, parce que ça, potentiellement par exemple dans un sport collectif on peut imaginer un entraîneur se dire ah mais là ce jeune, est-ce que j'ai vraiment envie de le garder dans mon équipe?
Bah, effectivement en fait il y a un régime des vulnérabilités, c'est-à-dire que c'est un endroit ultra, comme je le disais, optimisé, où il y a une hyper-sélection. C'est pas la sélection de la vie sociale classique, hein. C'est quand même une sélection, quand même un écrémage qui se fait de plus en plus tôt, avec une consécration qui doit aussi se faire de manière précoce, et on le voit encore d'autant plus aujourd'hui. Donc il est très difficile de vivre dans ces espaces-là. Et en somme, effectivement, produire du discours sur une forme de fragilité, c'est aussi avouer, faire un aveu d'échec dans un premier temps. Ça peut être perçu comme ça. Donc, c'est très compliqué à aller dire, aller solliciter de la parole chez certains athlètes. Et surtout quand vous êtes entouré aussi de personnes qui sont aussi des athlètes. C'est-à-dire que vivre dans le sport de haut niveau et se construire dedans, c'est un monde où votre entraîneur devient une figure paternelle, ou entraîneur-entraîneuse, donc une figure familiale. Vos copains sont aussi vos concurrents. Enfin, il y a quand même tout ça qui est mélangé et c'est très compliqué au bout d'un moment de sortir un peu, d'opérer un peu une bifurcation dans ce qu'on a à dire et ce qu'on ressentit.
Yann Ancelin, je vous ai vu acquiescer. C'est difficile aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour des sportifs de dire là j'ai une vulnérabilité, là j'ai besoin d'aide.
Mais je crois que ça quand même, la parole commence à se libérer pas mal. Il y a des athlètes de très haut niveau comme Sam Mendels aux États-Unis qui a avoué justement sa fragilité, et je pense que c'est une étape importante aussi de se rendre compte que ces êtres humains qui subissent des pressions quotidiennes, qui épousent la pression en permanence et qui sont toujours en concurrence les uns par rapport aux autres, dans un milieu aussi où comme vous venez de le dire, c'est ultra concurrentiel, et en même temps c'est ses amis qu'on voit au quotidien.
C'est des gens qu'on va retrouver de compétition en compétition.
Et voilà, dans le monde du tennis notamment, c'est toujours les mêmes personnes que l'on retrouve. Et c'est vrai que c'est un rapport assez difficile. Mais je pense que cette fragilité, finalement, c'est important que les paroles se libèrent et qu'on arrive à prendre conscience, finalement, de cet être humain. Et à partir du moment où on avoue, quelque part, cet aveu de faiblesse, c'est déjà une première étape de construction. Parce qu'il est important de pas être dans le déni. Et il y en a beaucoup d'athlètes qui se mentent à eux-mêmes et qui se fixent des objectifs qui sont parfois irréalistes. Et ça fournit souvent de l'auto-sabotage. Donc c'est important, en tous les cas, que l'acceptation de la difficulté, l'acceptation de l'erreur, accepter le doute... C'est des travaux, en tous les cas, qui sont menés et qui sont importants de dire que c'est des choses normales dans l'évolution aussi de douter.
Vous avez parlé d'auto-sabotage. À Udélé Ikouessan, est-ce que vous, c'est un sentiment que vous avez ressenti peut-être dans votre carrière? Le fait que parfois, au début d'une course, on panique et on se sabote soi-même.
Déjà, pour revenir sur la vulnérabilité, moi je... Alors, je ne suis pas sociologue, mais je ne pense pas que ce soit que du côté du sportif que la problématique se trouve. Ouais. Je pense qu'on a tendance aussi, dans le milieu du haut niveau, à opposer le fait d'être bien dans sa peau à avoir aussi envie de performer. Et donc, quand un athlète est en capacité de se dire « bon, là, sur tel aspect, j'ai peut-être besoin d'aide ou j'ai quelques fragilités », il y a aussi cette peur, finalement, que l'athlète s'écarte du chemin du haut niveau. Alors que, justement, aujourd'hui, quand les grands champions prennent la parole, on montre, en fait, qu'on peut être performant et tout en étant aussi bien dans sa peau, et que mieux on est dans sa peau et on peut être encore plus performant. Et donc je pense que c'est aussi un discours qui s'entend de plus en plus et qui permet à des sportifs de haut niveau de pouvoir avouer que quelque part il y a eu des moments de doute, des moments de dépression, des moments où ils se sont sentis très mal. Et pour revenir à l'auto-sabotage, je dirais que c'est plutôt le fait de ne pas mettre de mots sur ses doutes ou sur ses peurs ou sur ses craintes. importante, qu'on se retrouve parfois à refaire peut-être des erreurs aussi en compétition, de rater son départ de course parce que finalement, on était concentré sur autre chose, l'esprit ailleurs. Et en fait, justement, moi, je considère que le fait de travailler sur soi avec un psychologue ou un préparateur mental, ça permet aussi à un moment donné de se poser des vraies questions de fond, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça montre et qu'est-ce que ça dit de moi, en fait, dans ma manière d'appréhender la compétition, dans ma manière de prendre le départ. Moi, ça m'est arrivé parfois, je suis pas une très grosse partante de partir, mais vraiment en catastrophe. Mais ça disait quelque chose sur ma manière d'appréhender la compétition, sur ma manière aussi d'être alignée ou pas avec moi-même à un instant T. Et donc, c'est pas tellement de l'auto-sabotage, mais c'est parfois aussi le seul moyen qu'un sportif a, finalement, d'exprimer une difficulté que l'entraîneur aussi n'est pas en capacité d'entendre. Ce que disait Séguir-là juste à l'instant aussi, c'est la difficulté aussi qu'on peut avoir encore aujourd'hui dans son staff à intégrer un psychologue ou un préparateur mental, parce que l'entraîneur, il arrive avec toutes ses solutions et il n'a pas envie d'avoir quelqu'un d'autre dans le staff.
Oui, c'est ce que j'avais demandé, parce que parfois, c'est difficile qu'un entraîneur ait envie d'avoir la maîtrise entièrement sur son poulain, son protégé. Avoir quelqu'un d'autre qui intervient, c'est potentiellement aussi devoir lâcher un peu du lest.
C'est ça, et puis c'est aussi d'accepter qu'il n'a pas la main sur tout.
Et que l'entraînement peut causer de la souffrance.
C'est ça, que potentiellement on est aussi un athlète qui ne va pas bien, et que l'entraînement et ça nécessite aussi cette capacité à se remettre en question, ce que les athlètes aussi peuvent faire, mais il faut aussi, ça demande aussi du coup au staff qui entoure l'athlète de pouvoir aussi se poser des bonnes questions.
Coach mental, atout indispensable pour devenir un grand champion, c'est le débat du jour sur RFI avec nos invités Ayodeleï Kwesan, Yann Ancelin et Séguir Lazri. Alors on a évoqué l'intérêt du coaching mental, les besoins des athlètes, cette fragilité qu'ils ont et qui a besoin d'être, alors j'ai pas envie de dire réparé, c'est pas forcément le bon terme, en tout cas d'être soutenu, ce soutien qui est nécessaire. Derrière, il y a aussi l'action de qui sont les coachs psychologiques. Aujourd'hui, Yann Ancelin, qui peut devenir préparateur mental concrètement? France en tout cas, parce que dans d'autres pays c'est différemment réglementé.
Oui, et c'est vrai que la réglementation en France est un peu obscure par rapport à la préparation mentale. Il y a bon nombre de formations en ligne en quelques jours, quelques heures.
Oui, c'est pour les auditeurs, pour se rendre compte. Moi, j'ai juste googlé très rapidement préparation mentale, formation. J'ai eu des kits me proposant une formation en un jour et demi pour devenir coach. Voilà. Alors que je n'ai aucune compétence.
Voilà, donc je crois qu'effectivement, déjà, c'est une formation longue pour être préparateur mental. Même quand on sort finalement de sa formation de préparateur mental, on peut pas véritablement se dire qu'on est véritablement un préparateur mental prêt à affronter toutes les épreuves. C'est quelque chose qui se construit avec le temps et qui permet justement, au fur et à mesure des évolutions en compétences, des différentes formations qu'on peut avoir, qui permet d'avancer. Mais je pense que ce qui est important, en tous les cas, pour qu'une formation soit reconnue, alors c'est vrai qu'il y a des formations, notamment universitaires, je crois du côté de Lille, ou de Clermont-Ferrand, qui sont des formations qui sont des diplômes universitaires assez réputés. Il y a beaucoup de formations aussi qui sont privées, mais je pense que le plus important, c'est déjà des formations où on est vraiment en confrontation avec des athlètes, on est en confrontation avec des gens, parce qu'on est un métier dans les relations humaines, et les formations en ligne, c'est un petit peu dangereux justement, dans le manque d'interaction et le manque de suivi au quotidien. Il y a beau avoir des régulations qui peuvent s'opérer avec des visios, ça remplace pas le contact véritablement avec les athlètes, la supervision avec des personnes.
Et on peut se demander la légitimité d'une formation en quelques jours, effectivement.
Ça peut pas être sérieux. Mais déjà, je pense que pour être un bon préparateur mental, faut déjà se changer soi-même. C'est-à-dire que c'est assez violent à partir du moment où on nous inculque ces préceptes. On se les applique d'abord à soi-même. On essaye de ressentir nous-mêmes les changements, de voir l'évolution. Et il y a un certain degré de maturation à avoir qui prend du temps avant de se sentir apte à pouvoir accompagner les gens. Mais c'est sûr qu'en étant tout seul face à un ordinateur, c'est pas possible.
Séguir Lazri, est-ce qu'on manque justement d'un cadre en France sur cette question des préparateurs psychologiques?
Littéralement, en fait. Là, c'est pour le coup, je vais citer plutôt un de mes camarades qui travaille aussi beaucoup dessus et qui a fait d'ailleurs récemment une étude à l'INSEP et qui montre en fait qu'on est loin de ce qu'il appelle une profession fermée. C'est-à-dire que tout se mélange dans cette profession. On peut venir à la fois des neurosciences, on peut venir de la psychologie, on peut avoir un passif simplement de sportif au niveau comme ressource et capital qu'on va essayer de maximiser sur le terrain et parce qu'on a des relations, aller faire fructifier ça. Donc effectivement, on est c'est un peu un fourre-tout en ce moment dans lequel le marché a du mal à se stabiliser.
Et en plus,
il s'appelle Raphaël
Lemaire,
hein, je tiens à le dire quand même.
Mon collègue. Mais on est sur un marché qui est assez fourre-tout alors que la demande explose.
Que la demande explose, et puis c'est vrai que parfois, il y a quand même la dimension du risque qui est aussi très présente. C'est-à-dire qu'entre effectivement des gens qui ont des ressources, qu'ils essaient d'appliquer au monde du sport de niveau, où ils arrivent à peu mélanger, et d'autres personnes qui, par leur aura, ou peuvent être des gourous et peuvent au contraire manipuler un peu les gens, c'est très récurrent. Et souvent d'ailleurs, ce qui se passe, moi pour avoir aussi m'être un peu penché sur la question, parfois il y a aussi des représentations du corps humain, du cerveau, du mental, parce qu'il faut quand même penser quelque chose, c'est qu'on parle de mental de l'athlète, et ça c'est toujours le truc qui échappe. C'est-à-dire que dans le sport de haut niveau, on optimise tout, on est capable de tout mesurer avec tout un ensemble d'appareils de data ou de mesures ou autres, et le mental est une dimension qui échappe totalement et encore beaucoup aux encadrants sportifs. Et en fait, là, il y a finalement une espèce de poule aux œufs d'or sur laquelle on va aller pour pouvoir essayer de réguler tout ça et d'en faire une ressource sur laquelle on va pouvoir capitaliser. Et en ce sens, moi, ce que je trouve très frappant notamment, c'est que, ce qui est un peu la version critique, c'est que plus la condition des athlètes se dégrade, plus cette profession s'assoit aussi et apparaît dans le champ du marché de la performance.
C'est-à-dire que les athlètes vont de moins en moins bien, selon vous ?
En fait, la condition des athlètes, même socialement, je veux dire, effectivement, aujourd'hui, être un athlète de haut niveau, c'est plus compliqué que ça ne l'était avant, parce que les cadres qui produisent les athlètes, les cadres structurants qui ont construit les athlètes tout au long de l'histoire, notamment l'histoire sportive, on va dire au sortir de la guerre, qu'on a commencé à se dire qu'on va faire une élite sportive. Ces conditions-là, elles se sont dégradées, alors qu'elles n'étaient pas terribles non plus. On parlait avant de statut d'athlète, de qualité d'athlète, pas de statut. Ça s'est dégradé. Et au fur et à mesure que ça s'est dégradé, finalement, pour exister, pour encore performer, on va essayer de... les athlètes vont mobiliser des ressources autour d'eux, et notamment les coachs mentaux arrivent dans cette mobilisation d'athlètes pour pouvoir s'assurer de rester encore dans le circuit.
Voilà. Oui, et vous avez parlé justement de risque de dérive. Il y a un exemple assez marquant, c'est Christine Aron, sprinteuse, qui racontait dans Le Monde, dans un article qui date de fin 2023, mais l'affaire elle-même est ancienne, elle date de 2004. Christine Aron expliquait avoir été piégée par, je cite, une psychothérapeute énergéticienne qui lui parlait donc d'énergie et d'amour comme force de guérison. Alors certes, on peut parfois se dire qu'un bon petit moment de souffle en plus, ça peut aider, mais là visiblement ça n'avait pas aidé. Elle était sortie de là, mais limite traumatisée par ce coaching-là qui ne l'avait pas aidé. Est-ce que, à Yodelé Equessence, c'est une crainte de la part des athlètes de tomber sur des charlatans ?
Oui, c'est une crainte, parce que là, on est de l'ordre aussi de l'intime, c'est-à-dire que c'est quand même une personne à qui on va partager énormément de choses, on ne va pas rester sur la sphère sportive, donc on va aussi parler de sa vie personnelle, sa vie privée, les difficultés qu'on a pu rencontrer ou qu'on rencontre au quotidien. Donc, y a aussi la fragilité là de l'athlète qui peut aussi mettre en danger parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner, parce qu'on a un besoin très fort de performer, que l'encadrement technique n'est pas en mesure d'accompagner. Et donc d'avoir envie quelque part de croire en la première personne qui va vous promettre finalement de pouvoir aller mieux. C'est aussi pour ça que c'est important que les athlètes continuent aussi de parler de ces sujets-là, ne serait-ce que pour informer que le fait que les fragilités, c'est normal, en fait, tout être humain en a, et puis pour qu'on puisse être vigilant par rapport aux personnes qu'on va pouvoir solliciter pour être accompagné, parce qu'effectivement, il y a un peu de tout, et donc vers qui se tourner, à qui on peut faire confiance. Là, c'est vrai que les recommandations entre athlètes, ça joue aussi beaucoup. Moi, personnellement, je vais voir plutôt un psychologue qui va avoir une spécialisation dans le sport. Parce que c'est vrai que, comme tu disais aussi, il y a cette nécessité de prendre du recul sur soi. On a aussi parfois des sportifs de haut niveau qui se lancent aussi dans ce domaine-là avec leur expérience de sportif. Mais du coup, il y a aussi le risque de beaucoup de projections et pas nécessairement cette capacité aussi à prendre du recul par rapport à la personne en face qui a d'autres besoins, qui a un autre parcours. Et donc, je pense qu'une clarification effectivement du parcours et des diplômes, ça permettrait en tout cas de sécuriser, mais pour les sportifs, mais pour monsieur et madame tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un marché dont on entend parler pour les dirigeants, pour des patrons et des...
Oui, ça, le coaching est à la mode dans le secteur.
C'est une révolution d'entrepreneuriat. C'est la révolution du monde du travail. Et à partir du moment où, en fait, le monde salarial, au moment, a bifurqué vers des travailleurs beaucoup plus autonomes, beaucoup plus entrepreneurs, il y a eu quand même cette idée, alors avec l'émergence aujourd'hui des neurosciences qui ont le vent en poupe, avec l'idée que finalement, bah, en fait, les individus, c'est en eux-mêmes que la réponse va se trouver. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un athlète, c'est pas un individu magique qui produit par son simple talent de la performance. C'est un individu qui rentre dans un processus, dans une structuration de domestication des corps et qui, au bout du cheminement, va devenir un champion. Donc en fait, il est dépendant de la structure même dans laquelle on vit. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, un peu dans le discours un peu radical, c'est qu'on se dédouane un peu de cet aspect de revendication qu'on pourrait avoir vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des grands appareils qui forment ces athlètes, pour justement bah, centrer plutôt le problème sur l'athlète et l'individualiser, le psychologiser en quelque sorte, alors qu'en fait la performance d'un athlète dépend aussi énormément des conditions dans lesquelles finalement il peut produire sa performance.
Oui, et d'ailleurs Ayodele Yucoussan, vous avez commencé à l'évoquer, il y a les questions aussi bah, de double voire de triple casquette quand on a une vie de famille, une vie professionnelle à côté, la question économique, comment est-ce que l'on fait pour payer ses entraînements, pour payer les déplacements pour aller en compétition, tout ça c'est extrêmement lourd aussi.
Oui, c'est extrêmement lourd et enfin, je suis tout à fait d'accord. Souvent, quand on parle de la performance d'un sportif, on va la critiquer, mais on va vraiment s'arrêter vraiment au sportif et à sa capacité finalement à se dépasser dans un grand événement en ne prenant absolument pas en compte ce que vit l'athlète au quotidien, ni son chemin, ni son parcours. Et donc, c'est vrai que c'est important aussi de ne pas blâmer en fait à chaque fois le mental, parce que c'est un peu ce qu'on entend à chaque fois quand un sportif va rater sa compétition. Ou va faire une contre-performance, on va blâmer le mental du sportif sans prendre en compte ce qui a pu se passer avant, ce qui se passe aussi pendant la carrière de cet athlète. Et donc c'est important aussi de dire que, et je pense que c'est aussi là où le discours il aide, c'est de dire bah, il y a des fragilités, mais les fragilités elles sont aussi accentuées par l'accompagnement existant ou non de par la fédération, de par son club. Et donc le mental c'est un plus dès lors où on a suffisamment d'éléments autour pour nous accompagner à la performance, mais par contre le mental ne va pas remplacer faire oublier les difficultés financières qu'un sportif peut avoir.
Oui, ça, ce n'est pas une baguette magique, mais donc il y a quand même cette question de qui peut devenir coach mental que l'on a commencé à évoquer. Alors l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, qu'on a déjà évoqué à quelques reprises, a créé un label dédié aux préparateurs mentaux il y a quelques années. Le ministère des Sports voulait aussi lancer une réflexion sur la profession. Est-ce que Yann Ancelin, vous êtes favorable à la création d'un cadre et avec des critères potentiellement peut-être assez durs potentiellement pour les coachs.
Oui, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais juste avant. C'est vrai que souvent, on associe la préparation mentale notamment à des résolutions de problèmes et à des résolutions de difficultés. En fait, un préparateur mental, il optimise le potentiel. C'est un peu comme un préparateur physique. Il va avoir un athlète qui va avoir des capacités sur certaines choses et qui va développer ses capacités. Et dans le mental, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on essaye de faire, même si c'est compliqué, des diagnostics complets de toutes les habiletés mentales. Et une fois que c'est fait, on essaye de renforcer ces habiletés pour pouvoir aussi performer. Et c'est pas uniquement travailler sur des fragilités. Je voulais préciser ça. Et pour répondre à votre question, oui, je pense que de toute façon, ça va dans le bon sens. À partir du moment où il y a beaucoup de gens qui profitent des fragilités, parce que c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, on est dans des moments des carrières où il y a du doute, où il y a de la difficulté. Et c'est vrai que certaines personnes profitent de cette fragilité en donnant des discours comme « ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, fais ce que je te dis, tout ira bien ». Mais c'est pas comme ça que ça marche. La préparation mentale ou le coaching mental, c'est vraiment accompagner les gens pour trouver leurs solutions et leur donner des outils pour pouvoir trouver leur chemin.
Eh bien, merci à tous les trois. C'est la fin de ce débat. Merci. Coach mental, atout indispensable pour devenir un grand champion. Eh bien, on a une réponse. C'est extrêmement utile, mais il ne faut pas effacer un autre aspect important du problème. C'est les conditions économiques, matérielles dans lesquelles s'entraînent les sportifs. Merci à tous les trois pour cet échange. Ayodele Yucoussan, vice-championne d'Europe du relais 4x100 mètres. Yann Ancelin, préparateur mental, et Séguir Lasry, sociologue du sport. Merci donc à tous les trois. Il est bientôt 20h ici à Paris. Dans quelques instants, ce sera le grand journal du soir de Christophe Paget. Et ensuite, ce sera Zéphirin Quadio pour Afrique Soir. Quel est le programme ?
Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous. Nous irons d'abord en Centrafrique où on est toujours sous le choc hein, après la bousculade meurtrière hier au lycée Barthélémy Boganda de Bangui, la capitale. Un mouvement de panique hein, provoqué par l'explosion d'un transformateur en pleine épreuve du bac. Le dernier bilan fait état de 29 morts. Le président Faustin Archange Touadéra déclare un deuil national. Et puis le Kenya est aussi toujours sous le choc hein, après la manifestation, les manifestations de mercredi qui ont tourné à l'émeute. Une quinzaine de personnes ont perdu la vie dans l'ensemble du pays. Et ce matin, certains commerçants du quartier des affaires de Nairobi, la capitale, ont découvert leur boutique ravagée. Ce sera un reportage de Gaëlle Lalex, notre correspondante sur place. À suivre aussi notre dossier consacré aujourd'hui au rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue. Le document publié ce jeudi note une augmentation de la consommation de drogue à des niveaux historiques.
Merci beaucoup Zéphirin Quadio et puis merci aussi à Florence Ponce et Arnold Dassowa pour la préparation de ce débat. Dans la régie ce soir, c'est Anatole Trouadec-Erignac. Et donc, restez à l'écoute de RFI dans moins d'une minute, c'est le grand journal international du soir de Christophe Paget qui s'approche du studio mais qui n'est pas encore tout à fait là. Et puis sinon, vous pouvez aussi réécouter ce débat, le retrouver sur notre application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Merci d'écouter la radio du monde.